On va passer à la parole à François Vatin et après on reviendra par le débat.
Merci. Bon, c'est un peu l'intervention d'un extérieur. Hein. Je pense qu'il fallait un sociologue à la tribune. Donc on est venu me chercher, mais je suis bien évidemment beaucoup moins engagé que les deux précédents orateurs. Alors, cela étant, je suis un sociologue un peu particulier parce que j'ai une double culture. Hein. Je suis économiste de formation. Pendant 10 ans, j'ai été maître de conférences de sciences économiques. Je suis maintenant professeur de sociologie. Mais à la différence d'autres, je n'ai pas forcément abandonné l'économie pour autant. Notamment, je continue à être un historien de la pensée économique. Et surtout, j'ai beaucoup œuvré pour le rapprochement des deux disciplines, tant en matière de recherche que de formation. En matière de recherche, j'avais créé avec Philippe Stenner un GDR qui s'appelait Économie et Sociologie, qui existe toujours, hein, qui est plus dirigé par nous. Et surtout, en matière de formation, j'ai beaucoup œuvré à l'université qui s'appelle Paris-Ouest maintenant, pour la création de cursus bidisciplinaires. Au bout de 10 ans d'efforts, nous avons réussi à obtenir un master qui s'appelle Économie et Société et qui est reconnu à la fois dans le domaine des sciences humaines et sociales et dans le domaine droit, économie, gestion. Ce qui n'est pas rien, parce qu'il faut savoir que le ministère maintenant définit les intitulés de master de façon un peu préfermée et que l'intitulé Économie et Société n'existait qu'au titre du domaine droit, économie, gestion, ce qui en soi en dit long sur la place qu'on entend donner aux autres disciplines dans la conception même d'un enseignement d'économie ouvert. Bon, un autre titre qui fait probablement qu'on m'a invité, c'est qu'il se trouve que durant l'été 2008, j'ai entretenu une longue correspondance avec Alain Béton sur ces questions-là au moment de la sortie du rapport Guenry. Et vous pouvez accéder à cette discussion puisque nous l'avons publiée sur la revue du MOS permanente, la revue du mouvement utilitariste en sciences sociales que dirige Alain Caillé. Alain Béton, donc, qui est professeur de sciences économiques et sociales, qui a joué un rôle très important dans la définition, au moment du rapport, il faisait partie de votre commission, hein. Non, il n'est pas parti de la commission. Il n'est pas parti de la commission.
Sur les programmes, c'est un des experts en fait qui est responsable des programmes actuels de première. Voilà.
Donc voilà, vous pouvez consulter cette discussion, qui est une discussion très amicale. Moi, je trouve que j'avais été membre du jury du CAPES de sciences économiques et sociales. J'avais rencontré Alain Béton à cette occasion-là. Donc c'est une conversation qui n'est pas du tout polémique, où on essaye d'aller au fond des choses. Vous pourrez regarder ce document si ça vous intéresse. Alors, à partir de cette rapide présentation d'où je parle, comme on disait dans les années 70, j'aurais des remarques à faire de trois ordres. Premièrement, à propos donc du succès des sciences économiques et sociales et de leur mise en cause actuelle, hein, je reviendrai sur un certain nombre de choses qui ont été dites tout à l'heure. Deuxièmement, autour de la notion de discipline. Et enfin, donc, sur les nouveaux programmes tels que j'ai pu les comprendre. Alors, une chose que j'ai comprise de mes échanges avec Alain Béton, très importante, et souvent il y a effectivement un peu confusion là-dessus, et il m'a recadré, je pense, avec raison, c'est qu'il ne faut pas confondre la filière et la discipline. C'est-à-dire souvent, effectivement, il y a une espèce de confusion. On a d'un côté la filière de sciences économiques et sociales, qui a un ensemble d'enseignements, de l'histoire, des mathématiques, de la philosophie au niveau de la terminale, bien évidemment, et puis cette discipline qui est la colonne vertébrale de la filière, mais la filière, bien sûr, est plus large que cette discipline. La façon dont Alain Béton présentait le problème, c'est effectivement réussite de la filière, ce qui n'empêche pas qu'il y a des problèmes pédagogico-scientifiques posés par la discipline. Voilà en gros comment il présentait les choses. Bon, c'est un point de vue qui peut tout à fait se défendre. Reste que cette identité entre la discipline et la filière montre bien que c'en est la colonne vertébrale. Et moi, je continue à penser, ça faisait partie des arguments que lui donnait à l'époque, que dans ses critiques pédagogico-scientifiques sur l'enseignement des sciences économiques et sociales, il y a bien quand même une attaque contre la filière elle-même, et attaque qui est assez bizarre parce qu'elle est portée par finalement des acteurs différents avec des attentions différentes. Alors ça a été déjà un petit peu évoqué, mais en gros on a, à mon sens, une convergence de trois types de critiques. La première critique, on y a insisté dessus tout à l'heure, c'est en gros les milieux libéraux, notamment patronaux. Bon, ça a été évoqué à propos de la demande d'Yvon Gattaz, d'intervention explicite du MEDEF notamment aussi, reprochant à la filière d'être à la fois trop abstraite, trop sociale, trop macro, pas assez technique, autour de l'idée que ça détournerait effectivement l'entreprise, voire parfois, je veux dire, présentation un peu caricaturale. Ça apprend la haine de l'entreprise, ce n'est qu'un ramassis d'archéo-marxistes. Bon, on a un peu ce genre de discours. Donc ça, c'est un premier registre de critique. Le second registre de critique, d'une certaine manière, c'est celui que Roger Guénry nous a donné. C'est celui qui vient des professeurs de sciences économiques de l'université, qui reprochent à l'enseignement de sciences économiques sociales au lycée de ne pas vraiment préparer les élèves à leur enseignement, avec l'idée qu'il n'est pas assez analytique, pas assez tourné vers les outils de la science économique. Ce qui pose problème, c'est-à-dire qu'on a bien vu dans ce que vous avez dit, que vous avez toujours parlé au nom de la poursuite en sciences économiques, comme si c'était la seule poursuite légitime à partir des études de sciences économiques et sociales. Et puis, bon, toujours la question, ben, effectivement, il y a la sociologie, puisqu'elle est à côté dans le programme, mais on ne peut pas en discuter de façon cohérente. Et puis, alors, il y a un troisième niveau de critique, pas explicite d'ailleurs, mais qui me paraît savoir jouer un rôle important, c'est celui qui vient des milieux académiques littéraires, qui en fait reproche à cette filière de détourner les élèves d'enseignement littéraire. Et ça, c'était notamment porté par Xavier Darcos, il faut bien le dire. On l'a retrouvé récemment à travers l'existence, l'entrée d'un ensemble d'écoles de commerce dans une banque d'épreuves sortie des classes littéraires. Donc il y a une pression qui est très forte de ce côté-là. On voit bien la chute de la filière littéraire continue depuis 40 ans. Et l'idée que finalement, c'est cette filière de sciences économiques et sociales qui viendrait manger du pain là-dessus. Et il faudrait donc l'abattre pour finalement que les bons élèves qui n'ont pas forcément le niveau en maths, finalement, s'orientent vers la filière littéraire. Alors, ce qui me frappe, c'est que ces trois critiques sont en fait très contradictoires, qu'il y a une espèce d'alliance de circonstances, mais que cette alliance de circonstances peut être absolument gravissime pour cette filière dont on nous a dit effectivement que, je veux dire, finalement, dans ce qui se passe dans le lycée en France aujourd'hui, c'est un espace quand même relatif d'équilibre. Moi, j'étais effectivement très sensibilisé à ça un jour où j'ai vu les statistiques concernant la population étudiante dans mon université, celle de Paris-Ouest, où le bac sciences économiques et sociales représentait plus d'un tiers de l'effectif, toute discipline et tout niveau confondu. C'est-à-dire qu'il y a le droit, il y a la psychologie, c'est-à-dire, c'est pas uniquement l'économie ou la sociologie. Et les bacs suivants, bac scientifique, bac littéraire, représentaient chacun moins de 10%, alors qu'on a aussi la philosophie, la littérature, etc. Donc je me suis dit, ben voilà, si je prends Nanterre, c'est une université qui est dominée par le modèle des bacs de sciences économiques et sociales. Et autour de ça, justement, dans cette discussion entre la filière littéraire, la filière sciences économiques et sociales, ce qui se joue, ben c'est effectivement un peu ce que nous avions essayé de créer avec Alain Caillé quand on avait créé ces cursus. Moi, je n'avais pas beaucoup l'intitulé. C'était lui qui en était porteur, qui parlait d'humanité moderne. Mais je pense que ça a un certain sens par rapport à ça. C'est-à-dire, l'enjeu aujourd'hui, ça ne serait pas effectivement d'être dans, je dirais, cette séparation schizoïne entre d'un côté les lettres et puis de l'autre les sciences incarnées par la filière S, qu'il y a une place pour effectivement quelque chose qui est un peu peut-être un peu composite, mais qui est ouvert sur le contemporain à travers les sciences sociales, qui sont en même temps une culture partagée, qui permettent aussi de dialoguer avec des espaces plus philosophico-littéraires, mais qui utilisent d'un autre côté les instrumentations techniques. Il y a, je pense, un enjeu important pour notre société à travers ça. Alors, ces réflexions, c'est le second point de mon exposé, conduisent à m'interroger sur la notion de discipline. Et là, c'est un peu l'historien de la pensée qui s'exprime. Je pense qu'on a trop tendance à faire des disciplines, des espèces d'idéaux platoniciens, alors que les frontières sont souvent floues, et ça conduit notamment à les reporter arbitrairement sur les périodes passées. Bon, je veux dire, il y a une idée convenue que Smith est un économiste. Pourquoi on dit que Smith est un économiste? Smith était un professeur de philosophie. Ça n'a aucun sens à cette époque de le caractériser dans le découpage actuel du savoir, et ça a d'ailleurs longtemps détourné les philosophes et les spécialistes d'autres sciences sociales de son œuvre. Pourquoi on ne lisait pas Smith comme on lisait Hume ou Rousseau? Et inversement, ça a détourné les économistes de la lecture d'autres œuvres que La richesse des nations. Ça a été le vieux problème bien classique sur l'Adam Smith problème pour savoir s'il y avait cohérence entre la théorie des sentiments moraux et La richesse des nations. Bon, donc une espèce d'idéalisation des disciplines peut conduire, je dirais, de façon rétroactive, à une espèce de partage des dépouilles dans la façon dont va les disciplines modernes, construites sur des critères épistémologiques que je ne mets pas en cause, mais s'approprient ainsi le passé, souvent de façon arbitraire. Ça pose un problème, donc jusqu'à présent on n'a pas beaucoup parlé de sociologie, ça pose un problème très important sur l'enseignement de la sociologie dans ce contexte-là, dans cette idée qu'on pourrait enseigner la sociologie à côté de la science économique. Hein. On a bien vu autour du rapport Guenry, puis de la commission des programmes, bon, il faut laisser une place à la sociologie puisque c'est les deux, mais on va avoir, au lieu d'avoir un enseignement de sciences économiques et sociales, on aura un enseignement de sciences économiques d'un côté et de sociologie de l'autre. Épistémologiquement, c'est difficilement tenable, tout simplement parce que, après, on en pense ce qu'on en veut, mais d'une certaine manière, chez ses fondateurs, vous citiez Auguste Comte tout à l'heure, la sociologie a bien été fondée, non pas à côté, mais dans une volonté de dépasser l'économie politique. Hein. C'était effectivement le projet d'Auguste Comte, c'est le projet qu'on trouve ensuite chez Émile Durkheim. Et même si on ne fait pas de l'histoire de la pensée, de l'épistémologie développée auprès des élèves, on ne peut pas ignorer cette réalité-là. Alors après, ça ne veut pas forcément dire que c'est fondé. Mais la sociologie, dans son histoire, n'est pas quelque chose qui existe forcément de façon simple à côté des sciences économiques. D'une certaine manière, ce sont des disciplines qui se sont toujours posées aussi en concurrence. Et on le voit maintenant aussi dans l'autre sens, dans le développement moderne de la théorie économique, dans un courant comme celui de Gary Becker, etc. Il y a aussi l'idée que, ben, il n'y a pas de problème, l'ensemble des phénomènes sociaux pourraient être traités avec les instruments de la théorie économique. Donc la question se pose de part et d'autre, et donc cette idée qu'on pourrait s'appuyer de façon simple sur les disciplines pour dire ben, on enseigne le noyau dur de la théorie économique d'un côté, de la sociologie de l'autre, ça résiste. Pas simplement sur le concret, j'y viendrai tout de suite, mais aussi sur l'histoire même de nos disciplines. Il y a un autre problème qui est lié à ça, et ça, ça rejoint quelques éléments évoqués dans l'ouvrage qui vient de sortir sur Refonder l'université, c'est qu'en France, je pense qu'on surestime assez largement les clivages disciplinaires dans l'espace universitaire. Et il faut bien le dire, là je vais mettre un peu les pieds dans le plat, c'est souvent plus un instrument de gestion des carrières qu'autre chose. Il faut savoir que la discipline au sein de l'université, c'est d'abord les sections du CNU, à travers la façon dont les sections du CNU gèrent les carrières des uns et des autres. Et ça a conduit, au cours de ces 30 dernières années, à une balkanisation des sciences sociales absolument effrayante. Parce qu'on parle d'économie et de sociologie, mais il faut savoir que vous avez aménagement, urbanisme, sciences et l'éducation, information, communication, que sais-je. Bon, donc vous pouvez arriver, maintenant vous avez les STAPS, hein. Moi j'étais au conseil d'administration de Nanterre, vous avez une discipline qui s'appelle STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, et il y avait donc un CNU de STAPS, et des gens qui recrutaient des historiens du sport, des économistes du sport, des sociologues du sport et des profs de basket, avec une seule commission de CNU. Donc il faut bien voir, si on commence à raisonner à travers, moi je me souviens, à m'être retrouvé avec un collègue, c'était à Rennes, en information communication, il n'était absolument pas question de faire un DEA de sciences sociales au nom de la pureté épistémologique de la discipline, parce que là-bas, il y avait le grand pape des informations communication à l'époque, qui était Armand Matlard. Donc on peut entendre ce qu'on veut sur la question des disciplines. Je ne dis pas ça pour l'économie et la sociologie, mais on voit bien le problème qu'il y a là derrière. Un des clivages essentiels qui marque la vie de l'université pour penser des cursus comme ceux que j'évoquais, qui permettent d'articuler économie et sociologie, c'est une histoire qui est une pure histoire de la corporation universitaire, qui est le fait que la sociologie est née dans les facultés de lettres et l'économie dans les facultés de droit. Or, les modalités de recrutement des professeurs n'étaient pas les mêmes, puisque dans un cas, vous avez un concours national qui s'appelle l'agrégation dans les facultés de droit. Ça a été étendu aux sciences économiques quand elles ont été créées, puis à la gestion quand elle a été créée, puis aussi également aux sciences politiques qui sont nées du droit, alors que de l'autre côté, vous n'avez pas ce concours national. Bien, figurez-vous que ce critère-là, il est plus fort que tous les critères épistémologiques qu'on peut imaginer. C'est ce qui conduit à la répartition des deux grands domaines, sciences humaines et sociales, qui va de la géographie à la psychologie, et vous êtes tous convaincus de l'unité épistémologique entre la géographie et la psychologie, alors que de l'autre côté, vous avez droit, économie, gestion, dont l'unité est fondée sur ce mode de recrutement avec l'agrégation du supérieur. Ce qui rend très difficile la coopération, on essaye de le tenir à Nanterre, entre l'économie et la sociologie sur un critère qui est un critère, encore une fois, purement d'histoire de la corporation universitaire. Ce qui pose notamment le problème du paradoxe de la gestion. La gestion est rentrée dans le groupe 1, alors que tout le monde sait que la gestion, c'est un mix de sciences économiques, de psychologie, de sociologie, que, je veux dire, quand vous allez dans des grandes écoles de commerce, vous allez trouver un petit peu toutes ces disciplines. Si vous allez faire un cursus de gestion dans une grande université, vous n'aurez que des gestionnaires en face de vous, ce qui est quand même un problème. Donc, moi, par rapport à cette critique que je fais de la surimportance donnée aux disciplines dans l'enseignement supérieur, je me dis, faut-il vraiment déplacer ça au niveau du lycée? C'est quelque chose qui tend à m'inquiéter. À cet égard, et c'est mon troisième point, je suis un peu inquiet par le scientisme qui a dominé justement dans la conception des programmes. C'est-à-dire que les économistes ont tendance un peu à considérer leur discipline comme une science dure Ils veulent donc imposer cet enseignement très analytique. On a vu que c'était la critique des professeurs du supérieur qui ont été influents dans les réformes actuelles. Et ils sont prêts, c'est ce que je disais tout à l'heure, à concéder une place équivalente, mais plus faible en temps, à la sociologie. C'est là une illusion, parce que effectivement, on ne pourra pas trouver en sociologie le même noyau dur, ce qui finalement conduit à la marginalisation de l'enseignement sociologique dans la pratique. Bon, je pense que ça a été dit d'une certaine manière tout à l'heure. Autrement dit, cette conception même de l'enseignement secondaire me paraît effectivement inapplicable à la sociologie, et personnellement, elle me paraît également erronée pour la science économique et même pour les sciences dures. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, je continue effectivement aussi à penser qu'il faut partir des problèmes et amener la conceptualisation au fur et à mesure. Il se trouve que j'ai un fils qui est actuellement en classe de seconde, et effectivement, j'ai été un peu ébahi au deuxième cours de l'année de voir qu'on lui présentait le concept d'élasticité, alors que la plupart des élèves ne savent pas manipuler un rapport. Moi, j'avais en deuxième année de sociologie, j'avais posé la question taux de chômage et taux d'emploi. Mon malheur, c'est que j'avais à peu près une copie sur deux. Les gens, les étudiants n'avaient pas compris que c'était qu'un taux. Et là, on fait effectivement un rapport de taux, qui est en plus un objet scientifiquement monstrueux, puisqu'on fait un rapport de taux sur des différences finies, c'est-à-dire que ce n'est ni l'élasticité en un point, ni l'élasticité moyenne. Bon, voilà, j'ai essayé d'expliquer ça à mon fils, il a une sale note, excusez-moi. Donc, j'ai du mal, effectivement, à comprendre pourquoi il faudrait rejeter l'approche par problème qui permet de fournir du matériau et de remonter progressivement aux instruments susceptibles de l'éclairer, voilà, de faire effectivement quelque chose sur l'entreprise, quelque chose sur le chômage, etc. Bon, ça faisait partie de mes échanges avec Alain Béton, je m'arrête là, mais d'une certaine manière, Roger Guénry nous a dit à peu près la même chose. On a tordu la balance, on a tordu le bâton dans l'autre sens, mais je ne suis pas sûr qu'il faille raisonner en termes de bâton qu'on tord. C'est-à-dire qu'une fois qu'on part effectivement d'une approche par problème, rien n'empêche effectivement d'identifier les différents instruments théoriques qu'on va essayer de faire surgir à l'occasion de l'analyse de ce problème. Voilà, personnellement, effectivement, comment je concevrais les choses. Je n'ai jamais eu l'expérience d'enseigner les sciences économiques et sociales au lycée, mais je veux dire, c'est un peu ma pratique maïotique aussi dans le supérieur, autant qu'il m'est possible, avec la double culture que je vous évoquais.
Merci.